Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. C'est en assistant à un débat parlementaire que j'ai vu le sénateur Jean-Claude Lenoir et le député PS Christian Bataille. Il s'agissait d'un rapport sur les techniques alternatives à la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, dont une version d'étape a été déposée le 5 juin 2013. J'ai voulu en savoir plus sur ce problème des choix scientifiques et technologiques. C'est pourquoi je remercie le sénateur Jean-Claude Lenoir d'avoir accepté mon invitation. Monsieur le sénateur, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, peut-être avant d'en venir au gaz de schiste, ce serait peut-être bien pour nos auditeurs que vous évoquiez votre brillante carrière puisque vous venez d'être élu sénateur.
Alors, je l'ai été il y a maintenant 3 ans déjà.
Oui, maintenant.
Après avoir été pendant 20 ans député.
D'abord,
élu local.
Vous étiez professeur.
Oui.
Et moi, j'aime bien qu'on le dise parce que professeur, ça demande
d'histoire.
Pour un professeur d'histoire à l'école Bignon à
Mortagne-au-Perche,
c'est quand même un beau trajet de devenir sénateur. Et ceci, chaque année, vous avez, monté une marche.
Eh bien, en tout cas, depuis longtemps, puisque j'ai été élu la première fois en 71 au conseil municipal de Mortagne. Je suis devenu aussitôt, d'ailleurs, maire adjoint. Je l'ai été pendant 18 ans. Et après, je suis devenu maire en 89. Mais entre-temps, j'étais devenu conseiller général, conseiller régional. Et en 93, j'ai été élu député. Alors, il est vrai que c'est un long parcours qui est celui d'un élu local qui peu à peu se fait connaître, qui gravit les échelons modestement et avec le temps. Mais comme j'ai commencé jeune, ça m'a permis d'arriver à l'Assemblée nationale à un âge où j'étais quand même parmi, je ne dis pas les plus jeunes, mais enfin,
on va
dire quand même dans le peloton des jeunes. Et donc j'étais 20 ans à l'Assemblée nationale et élu sénateur il y a 3 ans.
Donc moi je dis une très très belle carrière, et pour le Perche et pour Mortagne, c'est un grand honneur.
En tout cas, j'étais heureux de pouvoir servir une commune que j'aime beaucoup, puisque j'y suis né. J'ai un lien très fort, qui est un lien presque affectif avec la ville de Mortagne-au-Perche. Et donc, je me suis employé, tant comme élu local que comme élu national, à réaliser des équipements, apporter des services qui sont aujourd'hui, je crois, appréciés.
Et d'ailleurs, vous avez reçu beaucoup de personnalités importantes.
Et on a reçu le président de la République, Nicolas Sarkozy, le Premier ministre, François Fillon, quantité de ministres qui sont venus, soit parce qu'ils voulaient visiter Mortagne, soit parce qu'ils participaient à des réunions qui se tenaient au carré du Perche. Donc voilà, nous avons un livre d'or à la mairie de Mortagne qui est couvert de témoignages amicaux de la part de personnalités de droite pour une bonne part, mais également de gauche.
Alors d'ailleurs, ce dossier que vous avez présenté avec Christian Bataille, PS, et vous étiez bien en accord tous les deux.
Alors un petit mot d'abord sur les conditions dans lesquelles nous avons travaillé.
Oui.
Nous appartenons à ce qu'on appelle l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. C'est une commission réunissant à la fois des députés et des sénateurs qui a été créée il y a à peu près 30 ans. 18 députés, 18 sénateurs. Cet office parlementaire est saisi par soit le président de l'Assemblée, soit le président du Sénat, de sujets sur lesquels un rapport doit être engagé. Alors, des sujets scientifiques, surtout scientifiques, technologiques également, dans le domaine évidemment de la science, de la médecine, de l'industrie, du futur.
Oui, c'est très vaste.
C'est très très vaste. Il y a en fait beaucoup de rapports qui sont produits par l'Office parlementaire. Alors le principe est le suivant, il y a 2 rapporteurs, un député, un sénateur, un de droite, un de gauche.
Toujours.
C'est dans ces conditions que l'Office parlementaire produit des rapports qui sont bien équilibrés d'un point de vue politique. Parce que on ne va pas réaliser un rapport où chacun, député, sénateur de tendances différentes, exprime son opinion. On essaie de trouver des lignes sur lesquelles un accord a été trouvé entre les deux. Et ce sont des sujets qui ne sont pas des sujets, je dirais, forcément partisans. Bien sûr qu'il y a derrière des lignes politiques, mais ce ne sont pas des sujets sur lesquels on pourrait s'opposer sur tous les points entre la gauche et la droite. J'ai donc été sollicité,
donc
Christian
par le
Bataille,
président de la République.
Président du Sénat.
C'est le président du Sénat.
Voilà, le président du Sénat a souhaité qu'il y ait un rapport pour y voir clair sur cette question des gaz de schiste. Et très naturellement, il s'est tourné vers l'Office parlementaire, qui a donc désigné un député socialiste, Christian Bataille, et moi-même, sénateur UMP, pour faire le point. Alors, quel est le travail que l'on mène quand on est rapporteur. D'abord, ça prend beaucoup de temps, hein, une année.
Oui, Alors, on ne fait pas que ça. C'est un gros ouvrage.
Oui, on ne fait pas que ça, bien sûr, mais vous procédez à beaucoup d'auditions. Vous rencontrez beaucoup, beaucoup de monde.
Alors, vous avez quand même votre attaché parlementaire qui vous aide dans ce travail ou ça, c'est
non, l'attaché parlementaire reste sur les sujets qui me concernent directement en tant que sénateur de l'Orne. En revanche, ce travail bénéficie du concours d'administrateurs du Sénat et de l'Assemblée nationale, donc des fonctionnaires, bon, qui vous permettent d'organiser les rendez-vous, de rédiger un certain nombre de notes. Et donc, nous avons, avec Christian Bataille, rencontré, je pense, à peu près 70 personnes. Alors, 70 personnes veut dire à chaque fois une heure et demie.
Hein, bon. Ouais.
Et puis, nous avons évidemment beaucoup lu, nous nous sommes déplacés.
Vous allez dans le Nord.
Alors, nous sommes allés en France, effectivement, dans le Nord, en Lorraine, dans le Sud-Est. Nous sommes allés aux États-Unis, au Canada, nous sommes allés en Pologne, en Ukraine, voir comment ce sujet est traité. Et évidemment, nous sommes allés voir des pays, notamment aux États-Unis, où l'exploitation de ces gaz de schiste est monnaie courante. Alors, pour la compréhension de ces sujets, revenons sur le gaz de schiste. Qu'est-ce que c'est que le gaz de schiste? Certains pensent que c'est un produit nouveau, dangereux. Bon, c'est du gaz naturel. Gaz de schiste, d'ailleurs, est une expression peu appropriée, parce qu'on aurait l'impression que c'est du gaz qu'on trouve dans du schiste. C'est pas exact. On le trouve dans des roches très dures, qui peuvent ressembler, parce qu'elles sont très, très compressées, à du schiste, mais c'est pas du schiste. Hein. Ce sont des... on va appeler de l'argilite très très dure et très en profondeur. Alors, il faut savoir que dans notre sous-sol, nous avons beaucoup d'hydrocarbures, de pétrole, du gaz. Bon, le pétrole est exploité depuis très longtemps, 150 ans, 160 ans. Le gaz depuis moins longtemps, mais quand vous creusez, vous avez toujours à la fois du pétrole et du gaz. Des fois plus de pétrole que de gaz, des fois plus de gaz que de pétrole, mais ce sont des hydrocarbures.
Des fois plus de gaz que de pétrole.
Oui, il y a des champs, il y a des gisements où c'est essentiellement le gaz qu'on exploite, mais généralement, vous avez toujours un peu de pétrole. Mais en tout cas, ce sont des hydrocarbures. Alors, la différence entre les hydrocarbures qu'on a exploités jusqu'à présent et ces fameux gaz de schiste ou pétrole de schiste, puisqu'il y a aussi du pétrole, même beaucoup de pétrole, c'est que les hydrocarbures que nous avons exploités jusqu'à présent, on les a trouvés dans des sous-sols, on va dire, perméables. Alors, ce ne sont pas des poches avec des réservoirs immenses dans lesquels on va puiser. En fait, ce sont des hydrocarbures qui sont mélangés à la roche, mais une roche facile à travailler.
Ça veut dire qu'il va falloir quand même la fracturer.
C'est-à-dire que jusqu'à présent, je parle des exploitations conventionnelles.
Ah oui.
Jusqu'à présent, le pétrole qui est exploité depuis à peu près 150-160 ans est un pétrole qu'on trouvait dans des roches plutôt perméables. Donc, plonge des tubes et on aspire et le pétrole vient et le gaz vient. Mais il faut savoir qu'il y a encore plus de pétrole et de gaz dans des roches très dures, qui sont situées plus en profondeur. Mais pour aller chercher ces hydrocarbures, il faut ouvrir la roche. Alors comment fait-on? La technique, elle est relativement éprouvée. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on utilise la fracturation hydraulique, depuis 1947 exactement. On enfonce des tubes dans le sous-sol. Vous avez des tubes qui comportent des petits explosifs qui sont actionnés par une commande électrique. Et ces explosifs, petite puissance, commencent à fracturer la roche. Ça crée des micro-fissures le long des tubes. Mais il faut élargir des micro-fissures, et pour cela, il faut injecter de l'eau à très haute pression. Vous avez des micro-fissures qui ont été créées par les petites explosions, vous injectez de l'eau à très haute pression, et ça élargit les micro-fissures. Ça les élargit et ça les prolonge, parfois sur des dizaines, centaines de mètres, voire quelques kilomètres. Mais une fois que vous avez élargi ces micro-fissures, compte tenu que c'est quand même en profondeur, à 2000, 2500 mètres, 3000 mètres de profondeur, évidemment, une fois que l'eau est partie, ça se referme. Donc, pour maintenir les micro-fissures ouvertes, on injecte en même temps du sable et des petites billes très fines de céramique. Pour que ces billes et sable puissent être maintenus en suspension, on ajoute à l'eau qui est injectée des produits qui gélifient cette eau. L'essentiel d'ailleurs des additifs sont des additifs organiques, notamment il y a un produit qui est injecté, qui est le haricot de guar. C'est un végétal qu'on trouve en Inde et en Amérique du Sud, qui fait une petite soupe, si vous voulez, avec l'eau. Et donc les billes et les billes de céramique et le sable sont maintenues en suspension et peuvent aller ainsi très loin dans les micro-fissures. Mais après, pour libérer le gaz et le pétrole, il faut lessiver ces micro-fissures. structures qui sont donc encombré par cette eau amplifiée. Et donc on y additionne des produits un peu d'eau de Javel au fond, hein, qui permettent de nettoyer.
Il faut beaucoup d'eau.
Ouais. Alors voilà, ça fait partie maintenant des questions autour de la fracturation hydraulique. Pourquoi y a-t-il ça, je vous ai expliqué la technique. Hein. Maintenant, quels sont les sujets autour de la fracturation hydraulique et pourquoi il y a un tel débat? Alors d'abord, il faut beaucoup d'eau. Bon, vous pouvez en avoir à proximité de l'endroit où vous explorez, mais des fois, il faut l'amener parfois de loin. Oui. L'apporter, alors, on crée des réserves artificielles, et donc ce sont des norias de camions, des citernes, qui apportent l'eau, et bon, les camions repartent vite, reviennent avec de l'eau, donc ça fait partie, je dirais, des inconvénients ou des contraintes attachées à une exploitation. Ensuite, on vous dit, mais ça menace les nappes phréatiques, puisqu'on les traverse. Ouais. Ben oui, on les traverse depuis toujours. Dès que vous creusez, les nappes phréatiques sont pas très éloignées de la surface du sol. Mais pour cela, on prend d'immenses précautions qui consistent à mettre des tubes qui sont, je dirais, pour protéger ou qui protègent leur environnement, c'est-à-dire qui assurent une vraie étanchéité. Alors, ce sont des chemises concentriques de plus en plus larges, à l'intérieur desquelles on injecte du béton, vraiment pour qu'il y ait une étanchéité totale. Alors, c'est moins au moment où vous traversez qu'au moment où remontent les hydrocarbures. Mais le problème se pose de la même façon pour, je dirais, l'exploitation traditionnelle. Hein. De toute façon, vous creusez, même si vous allez chercher de l'eau, c'est pareil. Hein. Alors ensuite, on vous dit, mais il y a des additifs. Il y a des additifs chimiques, même certains vous disent, cancérigènes. Bon, on peut raconter n'importe quoi. Les produits qui sont ajoutés sont des produits de consommation courante. Que
par exemple,
utiliser. Bah, quand vous allez dans la piscine, dans une piscine municipale, bah, vous n'êtes pas indisposé par les produits qui assurent la propreté de l'eau et qui tuent les microbes. Hein. Bon, ce sont des produits, même quand vous faites la vaisselle, vous lavez, vous rasez, vous touchez des produits qu'on retrouve dans les liquides qui sont introduits à haute pression dans le sous-sol. D'ailleurs, la liste est connue, elle est établie, tout ça est vérifié. Bon. Alors après, on vous dit... mais ça crée des tremblements de terre. Bon. Il est certain que quand vous creusez, vous risquez toujours de provoquer des mouvements sismiques qu'il ne faut pas nier. Le tout est de savoir quelle est l'ampleur de ces mouvements. Alors, certains vous disent, oui, mais vous fragilisez, il y a des explosions en sous-sol. Non, ce ne sont pas des explosions, ce sont effectivement des éclats qui sont provoqués autour des tubes pour créer une micro-fissure, mais personne ne ressent à la surface quoi que ce soit. Néanmoins, il est exact qu'il y a des sites où l'on a observé des mouvements importants. Des mouvements sismiques, notamment aux États-Unis, je l'ai encore lu récemment, dans l'Oklahoma, on a assisté à des mouvements sismiques qui ont été vraiment, alors d'abord, évidemment ressentis par les laboratoires, mais aussi un peu par la population. Bon, c'est vrai que sur la Terre, il y a des mouvements, hein, il y a des mouvements sismiques, des fois des petits tremblements de terre à peine perceptibles, ça n'a jamais été important, mais ces phénomènes sont produits dans des sous-sols qui ont été mal étudiés d'un point de vue géologique, car ce qu'il faut éviter, c'est de travailler des sous-sols où il y a des failles trop importantes. Que là, les liquides qui sont introduits dans le sous-sol risquent de provoquer des glissements de plaques qui, à ce moment-là, engendrent des mouvements sismiques. J'y dirais que d'une façon générale, il y a de grandes précautions à prendre. On ne va pas creuser le sol en profondeur
sans faire
évidemment des analyses très poussées pour vérifier que c'est possible et sans vérifier surtout que les techniques employées ne compromettent pas l'environnement et ne modifient pas la nature alors et du sous-sol et de la surface, parce que dernier point, c'est que évidemment certains vous disent oui mais vous vous rendez compte, les désordres à la surface, vous avez un vaste chantier. Alors, c'est vrai que pendant le temps de l'exploration et l'exploitation, il y a un chantier. Alors pour l'exploration, ça dure en fait quelques semaines. Hein. Une fois que ça y est, le puits est amorcé, bon, vous avez une tête de puits avec des robinets pour le gaz, avec une pompe pour le pétrole, et puis ensuite l'activité se poursuit, mais sans qu'il y ait autant d'appareils que ceux qui ont été installés pendant l'exploration.
Bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je Je suis toujours avec le sénateur Jean-Claude Lenoir qui évoque pour nous les gaz de schiste. Nous avons dans une première partie expliqué ce qu'étaient les gaz de schiste. Maintenant, Jean-Claude Lenoir, il y a une loi qui interdit la fracturation hydraulique. Qu'est-ce que c'est exactement que ces lois ? Cette loi, quand a-t-elle été votée ? Comment ça s'est passé ? Racontez-nous.
Alors, cette loi date du 13 juillet 2011, donc il y a 3 ans.
Quand vous êtes arrivé...
Oui, j'ai participé à la discussion, j'étais encore député, parce qu'évidemment, la loi date du 13 juillet, mais le débat a eu lieu avant, dans les mois qui précédaient. Alors, c'est une loi qui a été votée dans la précipitation, après que des permis aient été attribués en Seine-et-Marne, permettant l'exploitation de pétrole, surtout d'ailleurs de schiste, dans le sous-sol. À l'époque, il y a eu un phénomène irrationnel qui... est né d'un film produit par des mouvements écologistes américains. Ce film était un film sur les méfaits du gaz de schiste. Et on expliquait, certains l'ont vu à la télévision, qu'en ouvrant son robinet, on craquait qu'il y avait une sorte de chalumeau. C'est Gazland.
Gazland.
Alors en fait, bon, c'était une histoire... Je le dis très clairement ici à la radio, aujourd'hui tout le monde en convient aux États-Unis complètement bidouillé. Le gaz ne venait absolument pas des profondeurs du sous-sol, c'était un gaz de surface biogénique, un gaz de marée qui s'était introduit dans des canalisations d'eau potable, était défectueuse, et donc du gaz arrivait, mais enfin ça avait strictement rien à voir. Mais les images ont été très fortes. Très forte, et on expliquait que voilà, ces gaz allaient maintenant pénétrer les canalisations et qu'il y avait de grands dangers. Aujourd'hui, je le dis très clairement, aux États-Unis, personne n'accorde le moindre crédit à cette thèse.
Oui, parce que vous êtes allé aux États-Unis.
Il y a eu une enquête menée par des agences publiques, des agences privées, etc. On sait très bien d'où ça vient, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est à ce moment-là que des permis avaient été accordés en France. Il y a eu une grande émotion dans les populations qui étaient concernées. Les élus eux-mêmes ont suivi le mouvement. Oui. Pour être clair, d'ailleurs, c'était des élus de droite qui ont aussitôt fait voter une proposition de loi pour interdire alors, ce qu'on appelle la fracturation hydraulique, c'est-à-dire le procédé que j'ai expliqué tout à l'heure qui consiste à injecter de l'eau, des liquides à très haute pression pour ouvrir les micro-fissures en profondeur. Alors, à partir de là... on a tout arrêté. Les permis qui ont été accordés ont été vendus. Toute activité industrielle a été absolument interdite. Mais en 2012, la gauche arrive au pouvoir. Le candidat François Hollande avait pris des engagements très fermes. Tant que je serai président, moi président, il n'y aura pas d'exploitation de gaz de schiste. Ça veut dire qu'on a déjà changé le sujet.
Mais
au début, c'était non à la fracturation hydraulique. Et aujourd'hui, les porteurs de pancartes disent non au gaz de schiste. Alors, soyons clairs, gaz de schiste, c'est du gaz naturel. Est-ce qu'on peut renoncer à l'utilisation d'hydrocarbures, pétrole et gaz, alors qu'on a de grands besoins qui vont se poursuivre pendant des dizaines et des dizaines d'années ?
Est-ce que vous pensez que les centrales nucléaires, on va en fermer ?
Aujourd'hui, c'est une vraie question.
Ah oui,
on veut fermer les centrales nucléaires et on ne veut plus...
Mais vous pensez que ça va se passer ?
Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. Je pense que le gouvernement ne sera pas en mesure de fermer avant longtemps toutes les centrales nucléaires. Il faut quand même rappeler que... Le Parti socialiste a conclu qu'il fallait en supprimer 24 réacteurs sur les 58 qu'on a d'ici à 2025. Ça veut dire que le candidat Hollande s'est bien gardé d'emboîter le pas et il a été plus prudent en disant on va fermer Fessenheim. On sait depuis que la loi sur la transition énergétique n'en parle pas. Je ne dis pas qu'elle n'en parle plus, c'est à voir dans le débat, mais pour l'instant on n'en parle pas. En tout cas, pour revenir aux hydrocarbures, je regrette, mais les voitures auront encore besoin de carburant, les immeubles pour se chauffer de produits pétroliers. Et puis, il n'y a pas que l'utilisation pour les véhicules. Il y a aussi toute l'activité pétrochimique. Une partie des produits que nous utilisons sont fabriqués à partir du pétrole, y compris certains vêtements. La pétrochimie, aujourd'hui, est en train de prospérer aux États-Unis au détriment de l'Europe. Il faut le savoir, que les États-Unis ont décidé d'exploiter les ressources dont ils disposaient, c'est-à-dire le pétrole et le gaz de schiste, donc enfermés dans des roches.
Et dans quelle région on en trouve surtout aux États-Unis ?
Alors, on en trouve beaucoup en Pennsylvanie, dans l'Ohio, on en trouve dans le Texas, dans l'Arkansas, dans le Dakota,
Vous avez vu des chantiers?
Oui, je suis allé sur place. D'ailleurs, j'ai souri en entendant certains mêmes ministres qui racontaient que l'exploitation des gaz de schiste, la fracturation hydraulique, c'était terrible pour l'environnement. On avait l'impression que le ministre qui s'exprimait, c'était Philippe Martin, qui n'est plus ministre, je m'en réjouis d'ailleurs, il était quand même un petit peu éloigné des sujets qu'il traitait. Il affirmait qu'il avait assisté à une fracturation hydraulique, c'était quasiment un tremblement de terre. Enfin, vraiment, il faut être sérieux. Moi, j'étais allé au même endroit et j'ai rencontré exactement les mêmes personnes que lui. J'ai assisté à des fractures hydrauliques. On ne les constate que sur les écrans des ordinateurs. Donc, tout cela pour dire que, bon, en France, on s'est interdit par une loi la fracturation hydraulique. Il faut savoir que dans le monde, il y a deux pays, et deux seuls, qui se sont tout interdits, c'est la France et la Bulgarie. Même des pays comme l'Allemagne, qui ont adopté un moratoire, aujourd'hui sont en train de revenir sur le sujet, en train de regarder comment exploiter ces ressources qui sont contenues dans le sous-sol. Alors, la question qui nous a été posée, la question bataille à moi, c'est mais est-ce qu'il y a d'autres moyens
que la fracturation.
La fracturation hydraulique pour exploiter ressources pétrolières et gazières. Alors ça, c'est une partie de notre travail. Bon, effectivement, la science a beaucoup évolué, avancé, les technologies se sont améliorées. Alors, il y a d'autres techniques qui consistent à injecter, parce qu'il faut de toute façon injecter un liquide gazeux, au lieu de l'eau, ça peut être du gaz d'ailleurs, propane, et notamment, alors c'est la dernière innovation, du propane non inflammable, parce que le propane autrement peut exploser et le maniement était quand même assez compliqué. Aujourd'hui, il y a des procédés qui sont...
Et c'est pas plus dangereux que l'eau?
Non.
Et pourquoi?
L'avantage c'est qu'il y a moins de volume, la détente du gaz arrivant en profondeur au contact des roches chaudes se dilate et on arrive au même résultat. Alors après, on récupère le gaz d'ailleurs et on le réinjecte. Enfin bref, il y a un circuit fermé qui, d'un point de vue économique, est extrêmement intéressant. Alors, il y a d'autres techniques sur lesquelles nous avons fourni des informations très précises. Néanmoins, notre rapport consiste à dire, écoutez, il y a d'autres techniques, mais la technique la plus éprouvée et celle qui apporte le plus de rendement, c'est la fracturation hydraulique, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Et donc, nous sommes l'employés à expliquer que...
C'est pratiqué aux États-Unis.
Voilà, exactement. Même s'il y a d'autres techniques, notamment l'utilisation de produits gazeux comme le propane non inflammable, mais c'est la fracturation hydraulique. Alors, ça veut dire que la fracturation hydraulique telle qu'elle a été pratiquée, qui a donné un certain nombre de résultats qui pouvaient vous interpeller, n'est plus pratiquée aujourd'hui. Il y a beaucoup de rigueur dans l'utilisation qui est faite de ces techniques. Et au fond, notre rapport consiste à dire, écoutez, l'alternative à la fracturation hydraulique, c'est encore la fracturation hydraulique, mais telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Alors, terminons sur ce sujet pour dire qu'il y a une question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que nous avons
du schiste,
des gaz et pétrole de schiste dans le sous-sol. Malheureusement, aujourd'hui, on s'interdit d'aller regarder.
Ah oui, c'est ça le problème.
Ça n'était pas dans la loi du 13 juillet 2011, mais c'était ensuite dans les décisions qui ont été prises par le gouvernement après les élections de 2012. On s'interdit même d'aller chercher, regarder. Ouais. Le pire a été atteint lorsque la ministre en charge de l'écologie, qui s'appelait Delphine Batteau, a signé une circulaire pour interdire d'utiliser ce qu'on appelle la sismique réflexion. La sismique réflexion consiste à envoyer des ondes, comme on fait avec de l'échographie, pour ausculter le sous-sol. Ouais. On n'a pas des réponses à 100%, mais on a quand même des réponses qui approchent la réalité. Elle a interdit qu'on aille même...
Alors que là, c'était pas dangereux.
Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas intrusif, mais évidemment, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'idée que, si on trouve des ressources en hydrocarbures, évidemment qu'on voudra les exploiter. Bien sûr, ça, on ne le cache pas. Et on entretient aujourd'hui sciemment la peur sur les territoires où on pourrait éventuellement exploiter de telles ressources.
Et vous pensez qu'il y en a dans quel territoire? Sur quel territoire?
Alors c'est intéressant de répondre à cette question, parce qu'il y a quand même, indépendamment des recherches qui sont faites dans le sous-sol, des études géologiques qui sont faites, pas seulement par les Français, par le BRGM, mais également par des géologues américains, qui ont permis de mettre en évidence qu'il y aurait trois zones en France. Le bassin parisien pour le pétrole, mais il y en a déjà, on exploite du pétrole en Seine-et-Marne, mais un pétrole qui n'est pas très très en profondeur. Il y aurait de grandes réserves de pétrole dans le sous-sol du bassin parisien. Le gaz plutôt dans le sud-est, et puis un autre gaz dont on a peu parlé auparavant, qui est le gaz de houille, qui est contenu dans les gisements miniers très en profondeur du Nord-Pas-de-Calais et de la Lorraine. Bon, là, on sait des réserves importantes. Est-ce qu'on peut dire quelle est l'importance de ces réserves? Franchement, il faut aller voir. Il faut donc autoriser la recherche, et c'est-à-dire la conclusion de notre rapport. Il faut ouvrir la recherche. Actuellement, elle est absolument interdite. Les chercheurs français ne travaillent pas en France, ils travaillent à l'étranger. Il faut faire aussi quelques expérimentations pour aller vérifier qui se trouve.
Oui, parce qu'on ne peut pas être contre quelque chose si déjà on ne sait même pas s'il y en a.
Bah, aujourd'hui, ça s'appelle l'obscurantisme.
Oui,
l'obscurantisme est professé par des gens qui, intellectuellement, ne sont pas très honnêtes et qui font de ce sujet le miel de leur discours politique. C'est vrai que c'est toujours plus facile de dénigrer et surtout de faire peur. À partir du moment où vous faites peur, vous attirez des gens qui vous écoutent en disant « heureusement qu'il était là pour nous le dire ». Bon, c'est tourner le dos à la science et la France, d'abord, n'a pas les moyens parce que nous sommes complètement dépendants de l'étranger pour le gaz et le pétrole. Et d'autre part, la France est un pays qui a toujours été à la pointe des travaux scientifiques et nous sommes le pays de Descartes. Je crois que la raison doit l'emporter.
Eh bien, un grand merci Jean-Claude Lenoir. Je crois que nous avons bien compris ce qu'était le gaz de schiste et comment doivent être faites les recherches. Merci à vous. Je rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez podcaster cette émission en faisant www.radiograndciel.fr. Merci, monsieur le sénateur.
Merci, Christiane Blain.